deuxième partie d'Onde Noire avec Oliver Gallmeister. Donc on va terminer, parce que je veux quand même parler de deux autres livres, sur Édouard Haby. D'abord, j'ai oublié de dire que c'était une réédition.
Oui, c'est un livre qui était paru en 1997 chez Stock sous le titre « Ne meurs pas au Mont-Désert ».
C'était un joli titre aussi. Et donc vous avez réédité aussi la suite qui s'appelle sobrement « Le retour du gang de la clé à molette », si je ne m'abuse.
Exactement.
Voilà.
On
alors,
retrouve les mêmes personnages.
Ça, c'est donc la première parution, l'autre étant évidemment postérieure. Et là, je voudrais parler de deux des dernières parutions dans cette collection noire. Le premier, qui nous a fait connaître les éditions Gallmeister et qui nous a éblouis, c'est Casco Bay, qui est paru en fin de deuxième trimestre, mai-juin, je pense.
Qui est paru au mois de juin 2008.
Voilà. Donc, William J. Tapley.
De William Tapley, oui.
Voilà, donc c'est une première édition. Et oui, je vais vous contredire, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que je trouvais qu'il n'était pas misanthrope. Donc, vous avez dit que vous laissiez la ligne éditoriale sur l'Ouest, et là, on est dans le Maine, quand même. Ça va
oui,
pas,
alors,
ça,
en fait,
hein.
Non, c'est vrai, vous avez raison.
Merci.
Mais j'ai aussi dit, je crois que je me réserve le droit de sortir un petit peu de ma ligne éditoriale. Le vrai sujet, c'est vraiment les rapports de l'homme et la nature. Et effectivement, le polar en question, Casco Bay, rentre complètement dans ce sujet-là. Même si, effectivement, il se passe dans l'Est américain, il y a quand même cette notion de grands espaces et des rapports de l'homme avec son environnement, des personnages sensibles à ce qui les entoure et une vie non urbaine. Alors, voilà. Mais effectivement, vous avez raison, ça n'est pas...
C'est une petite boutade, il ne faudra pas m'en vouloir. Voilà, donc Casco Bay fait suite à un livre que vous avez précédemment édité, qui s'appelait « Dérive sanglante », avec le même personnage. Ceci dit, on peut lire Casco Bay après ou avant, c'est absolument pas un problème, on comprend quand même. Et là, il faut qu'on s'arrête sur ce personnage que je trouve magnifique, dont je crois que je suis tombée amoureuse, qui s'appelle Stony Calhoun. Et à qui que l'on trouve dans une drôle de situation, parce que c'est un homme qui n'a pas de passé, parce qu'il a perdu sa mémoire à cause d'une décharge orageuse.
Oui, c'est ça. C'est un homme qui a eu un accident de montagne, apparemment.
Voilà, alors on sait rien de son passé, lui non plus, et c'est absolument fascinant parce que il est rare de voir dans la littérature un personnage, d'abord aussi intéressant que lui, et puis d'autre part, un homme qui se reconstruit au fur et à mesure des phrases. Ça, c'est absolument fantastique parce que, d'abord, il s'est fait une propre construction, justement, par rapport à la nature. Donc, il est guide de pêche, on peut dire ça comme ça. Et il est spécialiste. Alors, petite anecdote, quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir avoir le courage de lire et qui m'a enthousiasmée, c'est des pages qui montrent ce personnage en train de monter des mouches. Pour
oui,
aller,
fait,
qui sont des appâts de pêche. Il y a comme ça des demi-pages et c'est magnifique. Voilà, ça c'est
oui,
vraiment...
Fait, oui.
Et j'étais tout épatée de lire ça. Preuve de la belle écriture de William Tapley. Et ce personnage, évidemment, il faut quand même qu'il y ait une histoire. On est dans le noir, il va toujours tomber sur des cadavres ou des mystères. Et il a une empathie avec les êtres humains absolument fantastique.
Pardon.
Non, mais justement, je voudrais que vous nous en parliez parce que je trouve, voilà, c'est un des beaux personnages de la littérature noire, il n'y en a pas tant que ça.
Oui, alors, Calhoun, c'est un personnage vraiment, vraiment intéressant, très attachant, parce qu'effectivement, l'attrait essentiel du livre, au-delà de l'intrigue policière, c'est effectivement la psychologie de ce personnage, qui, lorsqu'il revient à la vie à peu près 38 ans, il a une mémoire de certains gestes qu'il savait faire, notamment monter des mouches, pêcher à la mouche, etc. Mais il ne sait rien d'autre de ce qu'il était avant. Et petit à petit, effectivement, au fur et à mesure qu'il est confronté à des situations de violence et à des crimes, on s'aperçoit il s'aperçoit lui-même qu'il fonctionne comme un enquêteur ou qu'il a des réflexes de flic ou d'agent, on ne sait pas trop. Il s'aperçoit qu'il sait se battre. Qu'il n'a pas peur de la violence.
Oui. Et ça lui fait un peu peur, d'ailleurs.
Voilà, et que et lui en fait se découvre en même temps que nous on le découvre, ce qui à mon avis est une nouveauté dans ce genre de livre. Et il a pas du tout envie de cette vie-là. Lui, il n'aspire qu'à une chose, c'est vivre dans sa cabane
avec son chien.
Une cabane dans les bois, enfin qui est une petite maison. Il a une femme avec laquelle il travaille, dont il est éperdument amoureux. Il a son chien qu'il adore. Et il veut mener une vie tranquille. Et effectivement, à chaque fois, la violence fait irruption dans son existence. Est-ce qu'elle est liée à son passé? On ne sait pas. Mais ça se passe de manière assez différente de ce qu'il imagine, oui.
Voilà, et là où je dis qu'il y a vraiment un très très beau personnage de roman, c'est justement donc les rapports qu'il a avec les autres, les personnages qu'il rencontre au fur et à mesure, et quels que soient ces personnages, il arrive d'une manière ou d'une autre à les réconforter. C'est il a vraiment une acuité de la douleur humaine qui est absolument fantastique, et il sait toujours trouver ce qu'il faut faire, le geste, le mot à dire vis-à-vis des personnages qu'il rencontre au fur et à mesure de son enquête pour les rassénérer, sauf évidemment les très très méchants, parce qu'il y en a quand même, forcément. Voilà, il a
oui,
vraiment...
Il est profondément humain et extrêmement délicat, ce qui en rajoute dans l'ambiguïté du personnage, puisque lui, il est assez bourru dans les apparences, mais en réalité, il est complètement tourné vers les autres, effectivement, oui.
Voilà, vers les autres, et quand il aime quelqu'un, il l'emmène sur son bateau pêcher dans les baies du Maine. Comme on a très envie de partir dans les déserts de l'Ouest quand on a lu Édouard Habi, c'est vrai qu'on a très très envie de prendre un avion pour partir dans le Maine et d'aller pêcher avec lui, parce que c'est vraiment, il y a l'air d'avoir des endroits de nature absolument extraordinaires aussi dans ce coin-là. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Est-ce qu'aux États-Unis il y a déjà
les suivants? Tapley vient de terminer le troisième volume.
Parce qu'on a hâte de savoir.
Dark Tiger. Il n'est pas encore publié. Il est chez son éditeur. Donc, il sera publié sans doute soit l'année prochaine, soit plus probablement en 2010.
Alors, j'ai oublié aussi une autre chose. La traduction, donc, c'est François Happ qui fait vivre...
Il a fait un travail admirable.
Oui.
Et pour Dérive sanglante, c'est Camille Faure qui, elle aussi, a fait un excellent travail sur ce livre-là.
Alors... un des derniers livres parus dans cette collection, c'est Shibumi, d'un auteur dont on va être obligé de parler, c'est comme Édouard Habi, parce que c'est un personnage assez étonnant, de Trévagnan. Donc là encore, c'est un désir très fort de, puisque c'est une réédition, c'est un livre que vous connaissiez, que vous aviez très très envie de rééditer.
Exactement, en fait Trévagnan, c'est un auteur vraiment un auteur culte au sens le plus strict du terme. Ce livre, Shibumi, était sorti chez Robert Laffont en 1981. C'est vraiment, sans conteste, son chef-d'œuvre. Trévagnan, c'est un auteur assez qui est complètement oublié maintenant, alors que lorsqu'il a sorti ses premiers livres, c'était vraiment un personnage de roman, puisqu'il a commencé, il a paru sur la scène littéraire aux États-Unis, en 72, oui. avec un livre qui s'appelait La Sanction, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires tout de suite, comme Le Grand Dieu avec la Molette d'ailleurs. Mais sur les années. Là, ça a été un énorme best-seller. Et Trévagnan, on ne savait pas qui c'était. Il n'a pas donné d'interview, pas de photo, on ne sait pas. On savait juste que c'était le pseudonyme d'un écrivain, mais c'est tout. Alors les gens ont pensé que c'était Robert Ludlum qui avait écrit ça, parce que c'était un roman qui se présentait comme un roman d'espionnage, ou Tom Clancy, etc. Bon. Et puis, 2 ans plus tard, il a fait une suite qui s'appelle L'Expert, que je vais publier en 2010. Et pareil, qui a eu un énorme succès aussi. Et 2 ans plus tard, en 76, aux États-Unis, il a sorti Shibumi. Et là, ça a été vraiment un succès phénoménal. Et là, les gens se sont dit, mais c'est bizarre, ce livre est écrit d'une manière différente. Donc, on a pensé que Trévagnan, c'était en fait un collectif d'auteurs. Et quelques années plus tard, il a fait un western, Incident à 20 Miles.
Oui.
Puis un livre avec une histoire d'amour qui vire au film d'horreur, L'été de Katia. Il a fait un roman policier, vraiment un roman noir, qui s'appelle en français Le Flic de Montréal, The Maine en anglais. Et en fait, à chaque fois, les gens étaient perturbés parce que c'était toujours des sujets très différents et d'une écriture différente. Et vraiment, on ne savait pas qui était cet homme. Et en fait, en 88, il a donné 2 interviews par fax, uniquement, Très bien, on n'a toujours pas cette photo de lui, hein, personne.
Oui, c'est ce que j'allais dire, il n'y a aucune photo de cet auteur dont on n'en aura pas, puisqu'apparemment, mais c'est même pas sûr, il est décédé. Si, on est sûr qu'il est mort quand même.
On est, oui, à peu près sûr qu'il est décédé.
À peu près.
Oui, oui. Oui, moi, je cherche pas trop dans la vie des
auteurs. Non, non, mais tout à fait.
Par principe, mais oui, oui, en fait, on sait que Trévanian, c'était quelqu'un qui s'appelait Rodney Whittaker, qui était enseignant en cinéma aux États-Unis. Et en fait, il a fait avec la littérature ce qu'a fait Kubrick avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il a pris des genres populaires, qu'il a complètement détourné pour apporter une vision très critique de la société Shibumi. Bon, certes, ça se lit comme un roman policier, mais c'est avant tout une critique très acerbe et très sévère de la politique expansionniste américaine.
Moi, je dirais que c'est vraiment inclassable d'ailleurs, parce que c'est vrai que bon, c'est vrai qu'il y a, d'abord c'est un roman qui est construit en plusieurs parties, comme apparemment le Shibumi, dont on va quand même donner la définition du mot quand même, parce qu'il faut. Mais c'est d'une richesse littéraire et surtout d'une érudition absolument incroyable. Et puis il y a effectivement cette critique. Alors ça tombe bien, on est le lendemain de l'élection de Obama. Alors je voudrais lire juste un tout petit extrait que j'avais déjà noté quand j'ai lu ce livre il y a quelques semaines, mais qui a une résonance absolument fantastique sur la politique américaine. Donc elle, c'est la Mother Company qui est quelque chose qui est encore plus méchant que la CIA, c'est dire. Donc, elle ne se préoccupait d'ailleurs pas plus de cette pause de 3 ans qui suit les élections et précède la convulsion démocratique suivante. La conception américaine du gouvernement représentatif impliquant que les qualités intellectuelles et morales requises pour diriger une puissante nation sont précisément celles qui devraient l'empêcher de se soumettre aux humiliantes pratiques de la chasse au vote et du marchandage de candidats. C'est un truisme de la politique américaine qu'un homme à même de remporter une élection n'en a jamais l'étoffe. Désolé pour... C'est magnifique, ces phrases.
Oui,
il y en a plein d'autres.
C'est bien d'avoir retrouvé ce passage. Et oui, alors là, bon, effectivement, c'est assez assez caricatural. On est vraiment dans la provocation pire. Mais rappelez-vous que lorsque le livre a été écrit en 76, on venait d'élire Carter, on sortait de Nixon.
Oui.
Donc c'était effectivement une époque où le contexte politique américain était moins brillant. Mais effectivement, la vision de la politique est extrêmement noir. C'est un auteur vraiment très très noir, très sombre.
C'est très noir, c'est très pessimiste, donc, puisqu'on vient de dire que c'était très noir. Mais je trouve que c'est vrai qu'il a une vision des États-Unis d'il y a 30 ans, puisqu'il écrit il y a 30 ans, mais qui résonne en écho en 2008 absolument. Ça pourrait être écrit en 2000, enfin maintenant quoi, c'est impressionnant.
Comme tous les bons livres.
Voilà, et puis de toute façon, on change pas, c'est pas une génération. Allô? Oh, je crains qu'on ait un petit problème. C'est pas grave du tout. Je pense qu'on va peut-être 53. Oula. Je sais pas si on va avoir le temps de le rappeler. J'aurais bien aimé quand même parler encore un petit peu peut-être de Shibumi. Donc, puisque je suis toute seule, je vais en reparler. Le personnage principal de ce livre s'appelle Nikolai L. Et on va le suivre dans toute la première partie du roman. On va le suivre dans son apprentissage du Shibumi, justement. Le Shibumi...
Mais qu'est-ce donc le Shibumi ?
Voilà, Jacques, j'attendais que tu me poses la question. En fait, c'est l'idée du raffinement le plus subtil. C'est japonais, c'est la philosophie japonaise. Et arriver à trouver le raffinement le plus subtil sous les apparences les plus banales. C'est en fait arriver à trouver le bonheur avec très peu de choses. Et en fait... L'idée, voilà une phrase que j'ai trouvée absolument magnifique, c'est quand on dépasse la connaissance pour arriver à la simplicité. Ça, je pense qu'on doit être très, très, très élevé en philosophie et en maîtrise de soi pour parvenir à ça. Autant dire que les gens qui me connaissent savent que c'est pas du tout mon cas. Mais c'est une philosophie absolument fantastique. Je crois qu'on a récupéré Monsieur Gallmeister.
Non, pas encore.
Non, pas encore, mais ça va peut-être bientôt venir. Voilà, donc toute la première partie de ce livre, Nicolas Hay, Monsieur Gallmeister est de nouveau en ligne.
Oui, je suis à nouveau.
Super.
Là.
Excusez-moi. Merci à Philippe, notre technicien, qui fait vraiment un travail fantastique. Pendant cette légère interruption du son, j'étais en train d'expliquer la philosophie du Shibumi qu'apprend le personnage principal, Nicolas Hale, pendant toute la première partie du livre. Donc, c'est un personnage étonnant. Il est mi-russe, mi-allemand. Et il est élevé.
Sa mère est russe.
Voilà, et il est élevé juste après la Première Guerre mondiale, bien après, puisque il est tout jeune quand il y a Hiroshima, et il est élevé à la fois par un militaire japonais, puis par un maître de go, qui va tenter de lui enseigner les plus subtiles finesses de ce jeu. Et donc, de la philosophie du Shibumi.
Exactement. En fait, Nicolas Hale est un homme sans nationalité précise, puisque effectivement sa mère est russe, son père est allemand. Il grandit dans le Shanghai des années 30. Et lorsque les Japonais envahissent Shanghai, il est pris sous la protection d'un général, maître de go aussi, qui lui enseigne ce jeu et qui, au moment... où il va partir de Shanghai, l'emmène au Japon et le confie à un autre maître de go qui va faire son éducation. Et Nicolas Hale se retrouve apatride et donc grandira comme un Japonais malgré sa peau claire et ses yeux verts et se considérera toute sa vie plus comme un Japonais, comme un disciple de go à la recherche d'une forme de sérénité absolue.
Et très étonnamment, parce que ces deux mots qui paraissent quand même un peu s'opposer, cette recherche de la sérénité va faire... Enfin, c'est pas pour ça, mais il va devenir un des tueurs à gages et un des hommes les plus redoutés et recherchés de la planète.
Justement... Oui, en fait, pour... oui.
Pardon. Allez-y, je préfère que ce soit vous qui parliez.
En fait, effectivement, lorsque son beau-père, en fait, celui qu'il considère comme son père spirituel, est fait prisonnier par les Américains en 1945, il est... contraint de rentrer dans la clandestinité après des péripéties que je ne vais pas raconter ici. Et il est horrifié par la politique américaine, justement, au Japon. Et il éprouve une telle haine envers l'occupant américain qu'il rentre dans l'illégalité. Et c'est l'armée américaine qui viendra le chercher pour en faire un assassin.
Un excellent assassin. Qui est une très belle métaphore de plein d'anecdotes qu'on a connues justement dans la politique américaine. Alors, la deuxième partie, là, vire quand même très roman d'espionnage. Je suis désolée de classifier, mais c'est quand même beaucoup plus dans l'action d'un roman d'espionnage. On le retrouve installé en semi-retraite dans un château au Pays Basque, entouré et protégé par une kyrielle d'amis, avec une femme absolument sublime avec qui il vit. Et il va tenter de sauver une jeune fille des griffes de la Mother Company. Une jeune femme qui est partie dans un bien mauvais trip dans le terrorisme international. Voilà, oui, là aussi, je crois que par-delà l'histoire, je suis désolée d'accélérer, mais il nous reste juste une minute, par-delà l'histoire, ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'écriture et la narration. Il y a vraiment une façon d'appréhender ce personnage, de passer des pages et des pages à nous raconter son initiation, puis changer complètement de rythme pour tomber dans l'action de qui se passe au Pays Basque, qui est totalement surprenante. Alors, j'ai pas parlé de la traductrice. Vous
Anne
mettez
d'Amour.
Anne d'Amour et nouvelle traduction révisée.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai repris la traduction, parce qu'une traduction, ça vieillit un petit peu. On a refait des corrections, mais des ajustements, des compléments pour ne remettre la traduction... au goût du jour et la compléter quelque peu. Et donc c'est vraiment une traduction qu'on peut considérer comme récente.
Eh bien voilà, le temps imparti qui nous était écoulé. Merci beaucoup de nous avoir consacré tout ce temps.
Et au revoir, bonne soirée.
Agora vous donne l'heure. 19h sur Agora FM, bon appétit à tous. De la...